La réaction des Guillaume Thibault, notre envoyé spécial permanent à Dakar.
Organisé, c'est ce que montre ce reportage de la correspondante de RFI à Pékin, Heike Schmidt.
RFI. RFI, grand reportage.
Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène à Tahiti. Aujourd'hui, François Hollande est attendu là-bas ce lundi. Il est le premier chef d'État français depuis 13 ans à se rendre en Polynésie française. Une visite attendue car 50 ans après le premier essai nucléaire en 1966, les archipels du Pacifique payent toujours les conséquences sociales et environnementales de la présence des fonctionnaires et des militaires de la métropole. Tahiti, une société à la dérive, un grand reportage de Laurent Gélin et Jean-Arnaud Derrins.
Un vent léger venu du large fait bruisser les arbres fruitiers qui entourent la maison de Marie-Noël, à quelques mètres des vagues de l'océan Pacifique. Marino, comme l'appellent les gens de la presqu'île, laisse toujours sa porte ouverte pour celles qui cherchent à échapper au coup de leur mari. Récemment, une femme est venue se réfugier chez elle.
Un jour, elle m'amène un SMS, j'en ai marre de la vie. En voyant ça, j'ai tout de suite senti qu'elle va faire une bêtise. J'ai quitté mon travail, je suis venue récupérer cette femme-là. J'ai amené chez moi et j'ai discuté pendant 6 heures. J'ai pas mangé, je suis restée à côté d'elle, j'ai discuté. Et puis, dans sa tête, moi, ce que j'ai vu, c'était finir sa vie. Et moi, je disais non, la vie est belle. Il faut se battre dans la vie pour vivre. Et quand elle me racontait son histoire, vraiment, elle avait ses frères qui l'abusaient. Quand elle a tout raconté ça, j'ai dit, le pardon existe.
Marie-Noël est la responsable locale de l'association Vaineorama, Femmes debout en tahitien, dans la petite ville de Taravao, à une soixantaine de kilomètres de Papeete. Chaque année, elle accueille 200 à 300 femmes victimes de violences.
Puis, je vais travailler, femme de ménage. Cet argent-là, je fais mes stocks. J'achète le sucre, le riz, le lentille. La plupart des Tahitiens, c'est pour faire assez à manger. Je me débrouille moi-même pour pouvoir aider ses mamans. Ses mamans et ses enfants. Et des fois, dans la nuit, si j'ai des bébés qui viennent et j'ai pas de couche ici, je me lève et je vais dans les portes de tout le monde. S'il te plaît, tu n'as pas quelque chose à donner à cet enfant.
Depuis la fin des essais nucléaires en 1996, le travail se fait rare en Polynésie. L'alcool et la drogue, le paca, la marijuana locale forment un cocktail détonnant qui prospère avec la misère. Elisabeth est aussi membre de Vaineorama, mais à Mooreea, l'île voisine de Tahiti.
La famille a toujours été la base ici, hein, d'accord? La famille, c'est la chose la plus importante. Donc, ce qui se passe, c'est que la famille, évidemment, maintenant, est une famille qui change, d'accord? Les femmes, elles veulent une certaine autonomie. On a de moins en moins d'enfants. Les femmes se retrouvent souvent seules avec des enfants, à se débrouiller. Il y a quand même un énorme taux de chômage ici, d'accord? Résultat, il faut bosser et ça change pas mal de choses. L'homme, il va plus à la pêche et il va plus dans le faapu, c'est-à-dire le jardin potager comme c'était avant, quoi. Il faut qu'il trouve sa place et c'est vrai que ça, plus la société de consommation, plus toutes les difficultés, ça change la société polynésienne.
C'est au début des années 1960 que s'installe en Polynésie le Centre d'expérimentation du Pacifique, le CEP, chargé de coordonner les essais nucléaires français. À sa suite, des milliers de militaires et de fonctionnaires de métropole arrivent dans les archipels polynésiens, comme l'explique Moetai Brotherson, conseiller d'Oscar Temaru, le leader du Tavini Uiratira, le parti indépendantiste de Polynésie.
Le plein emploi ici, il a existé au moment du CEP. Il y avait beaucoup de main-d'œuvre, soit direct, soit indirect. Hein. Quand vous avez des colonels qui ont des maisons, il faut des jardiniers. Enfin, bon. Encore qu'ici, il faut différencier. J'ai un ami qui vit dans les Tuamotu depuis 22 ans. Il n'a pas d'argent sur lui. Il ne meurt pas, il vit très bien. Il a certainement moins de problèmes de santé que moi. Mais statistiquement, il est chômeur. Hein. Aujourd'hui, c'est le chômage qui est préoccupant, c'est quand on n'a pas de travail, pas de revenus et pas de possibilité de vivre de sa terre, de ce qui nous entoure directement. Là, c'est problématique.
En 40 ans, 193 essais nucléaires ont été menés en Polynésie. Ces derniers ont bien sûr causé d'immenses dégâts environnementaux dont les conséquences à long terme sont encore difficilement quantifiables. Mais ils ont aussi totalement bouleversé la société traditionnelle polynésienne basée sur l'agriculture et la pêche.
Il faut voir qu'à partir du moment où le CEP s'est installé, l'agriculture, mais ici, elle a fait une chute libre. C'est juste inimaginable, parce qu'on a commencé à tout importer. Il y a une redistribution des richesses qui est absolument scandaleuse. Vous avez ici des gens très très riches. Faites le tour, je suis sûr que vous allez plus voir en une journée plus de Porsche Cayenne et de Range Rover sur Tahiti que vous allez en voir à New York. Donc il y a des gens très très riches ici. Et puis à côté de ça, il y a des gens très très pauvres.
En deux générations, des milliers de familles originaires des archipels éloignés de Polynésie, les Australes, les Tuamotu ou les Gambiers, sont venus s'installer à Tahiti pour trouver du travail. Aujourd'hui, l'argent c'est tari, mais les migrations se poursuivent, les femmes enceintes font le voyage jusqu'à Papeete pour accoucher, les jeunes poursuivent des cours au lycée. Tokai Devatine est sociologue.
Oui, c'est que le développement est concentré à Tahiti et le fait est que les gens ne naissent plus dans les îles. Les gens meurent dans les îles, on n'enregistre plus de naissances et donc les jeunes quittent leurs atolls, quittent leurs archipels pour venir à Tahiti. Mais là où les choses ne sont pas plus simples et sont voire même plus compliquées que là où ils sont, puisqu'ils arrivent ici, ils ne sont pas propriétaires, alors que chez eux, ils sont propriétaires. C'est la richesse des atolls qui sont là.
Le développement de la société de consommation arrivée avec l'installation du CEP a également bouleversé le régime alimentaire des Iliens. Le beurre, le sucre, l'huile et les sodas occupent désormais une place de choix sur les tables des familles polynésiennes. Mayana Bambridge est la vice-présidente de la Croix-Rouge de Polynésie française.
En Polynésie, on a des petits, des enfants qui sont diabétiques. L'obésité est très importante ici. Et l'obésité, eh bien, la conséquence, c'est également le diabète. Donc on a un taux de diabète extrêmement élevé en Polynésie. Quelquefois, c'est héréditaire, mais c'est surtout le mode de vie, l'alimentation, la consommation et le mode de vie qui s'est installé depuis quelques années.
Et ces malades n'ont pas d'autre choix que de s'installer à Tahiti, aucune autre île de Polynésie n'ayant de centre médical capable de réaliser des dialyses.
Les populations qui sont diabétiques et qui doivent être dialysées, qui arrivent des îles, qui doivent être dialysées 3 fois par semaine, ne peuvent pas rentrer chez elles. Donc elles stagnent, elles restent ici. Ça produit des cas de famille vraiment insolubles après. Parce que c'est à vie. La dialyse, c'est à vie.
Pour redynamiser l'économie, le président de Polynésie, Édouard Fritsch, en poste depuis 2014, souhaite, comme la majorité de ses prédécesseurs, miser sur le développement du tourisme. Son ministre de la Culture et de l'Environnement, Remoana Mamatuya-Utapu, dévoile les futurs projets du gouvernement.
Il y a bien sûr le développement du tourisme qui est quand même la première industrie du pays. Il y a aussi le secteur de la perliculture, de la pêche. La vanille aussi est un produit sur lequel on peut développer des ressources pour le pays au niveau de l'exportation. Et nous souhaitons fortement baser ce développement de l'industrie touristique à la fois sur la culture et sur l'environnement.
Difficile cependant de mettre en place de vraies politiques économiques sans une réelle indépendance, c'est du moins ce que répète depuis des décennies Oscar Temaru, opposant historique aux essais nucléaires et leader du parti indépendantiste, le Tavini.
Si on veut vraiment développer, il faut que nous ayons tous les leviers de commande de ce pays. Comment parler de développement d'un pays si la monnaie, vous ne contrôlez pas votre monnaie? On ne contrôle rien du tout. Prenons le tourisme, par exemple, c'est notre première industrie. Pour la plupart des pays du monde entier, pour venir chez nous, il faut avoir un visa.
Sous protectorat français depuis la seconde moitié du 19e siècle, les 118 îles de la Polynésie ne possèdent un gouvernement local que depuis 1957. Elles sont aujourd'hui regroupées au sein d'une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie a été progressivement élargie.
Pour parler un peu des institutions de notre pays, nous avons, avec notre statut d'autonomie, depuis 1977. Nous avons un président de gouvernement, mais il n'est pas le président de la Polynésie française. Il y a une nuance. Le président de la Polynésie française, c'est M. François Hollande. Ça veut dire que nous n'avons pas la possibilité de faire passer de vraies lois dans notre Parlement ou Assemblée territoriale.
Ce n'est que depuis le début des années 1980 que les enfants peuvent théoriquement apprendre leur langue à l'école, car durant des décennies, il était interdit de parler polynésien dans les établissements scolaires, ce qui a encore accéléré l'acculturation de la société polynésienne. Le ministre Eremoana Mamaatuyautapu.
Pour beaucoup de familles, le français c'était la langue de la réussite. Et nos parents et nos grands-parents qui ne maîtrisaient pas toujours le français nous parlaient dans un pidgin un peu, voilà. Ce qui fait que non seulement on parle, nos enfants ne parlent plus très bien le tahitien, mais en plus ils ne parlent pas très bien le français. Donc il faut maintenant réapprendre à tout le monde que parler sa langue, c'est important, pour pouvoir aussi bien parler le français et réussir à l'école quand même. Ce qui fait que dans les familles aujourd'hui qui sont complètement éclatées, le réseau de transmission des savoir-faire, de la langue, etc., etc., n'existe plus. Moi, je suis convaincu que les nouvelles technologies sont un atout, parce que nos enfants, aujourd'hui, c'est leur monde. Hein. Et en fait, notre réflexion, elle est de dire, mais comment on met le grand-père dans le téléphone ou dans la tablette? Le grand-père qui va raconter les histoires, qui va raconter les légendes. Comment, finalement, on construit du contenu?
Aujourd'hui, la défense de la langue semble faire consensus chez les hommes politiques polynésiens, mais cela n'a pas toujours été le cas. Au début des années 1960, le leader indépendantiste Puvana Opa Tetuapua est emprisonné en France, puis condamné à l'exil, loin de Tahiti, pour ses actions anticoloniales. Sandro et son petit-fils.
Depuis l'arrivée de la bombe, on a l'impression qu'on a coulé une chape de béton autour de nous. Tout doit venir de la France. Tout, c'est grâce à la France. On avait une façon de vivre. Et puis, avec l'arrivée de la bombe, avec l'arrivée de l'argent, c'est vrai, c'est arrivé tout ça. En même temps, un moule est arrivé. Et nous, on nous a mis dans ce moule-là. Même s'il y a des parties qui ne rentrent pas, et on enfonce. On fonce dans le moule. Il faut qu'on rentre dans ce moule-là. Il n'y a pas autre chose, il n'y a que ce moule-là. Maintenant, on est à la recherche de notre moule d'origine.
Retrouver son moule d'origine, c'est la quête que mène Sonny Walker depuis une quinzaine d'années. Cet ancien marin de la Royale recueille les savoirs traditionnels de ses ancêtres, cultive les plantes locales et fabrique des pirogues. Et avec les quelques membres de son association, il célèbre les dieux anciens du panthéon polythéiste polynésien.
Alors, les dieux qu'on vénère souvent, c'est Tahiti Matanui, le dieu du monde végétal, de la forêt. Il y a les dieux du vent, de la pluie. Non, c'est plutôt une déesse, hein, qui s'appelle Ateataunui. Donc tout ce qui est pluie, les nuages, les tornades, voilà.
Sur les terres de sa famille, dans la vallée de Hamuta, au cœur de la forêt tropicale qui domine Papeete, il se recueille sur une esplanade de pierres sacrées, le marae.
Un marae, c'est un lieu de culte, hein, donc où on pratique les cérémonies, différentes cérémonies par thème. Notamment là, à la fin du mois, normalement, on doit célébrer la saison de l'abondance qui a commencé en novembre et qui arrive à son pic là à la fin du mois et qui va se terminer au mois de mai. C'est des saisons de 6 mois. Hein. Après, on bascule dans la saison de disette. Enfin, les plantes vont être un petit peu en sommeil jusqu'au prochain mois de novembre où ça va repartir.
Aujourd'hui, le peuple polynésien est à la recherche de ses racines pour tenter de tourner la page de la colonisation française. Même s'il faudra pour les générations à venir apprendre à vivre avec la terrible pollution causée par les essais nucléaires. Roland Oldham s'est battu durant 40 ans contre le Centre d'expérimentation du Pacifique. Il dirige aujourd'hui l'Association des anciens travailleurs du nucléaire qui lutte pour l'indemnisation des victimes.
Ceux-là qui ont fait les essais ici étaient très au courant de la situation. Aujourd'hui, quand je les entends dire que les essais ont été propres, parce qu'ils continuent de le dire, moi ça me fait bondir. Moi je dis que le crime continue. Alors moi je trouve que c'est un affront, c'est un mépris profond pour le peuple polynésien et puis pour les enfants, pour l'avenir de ce pays.
Durant la campagne présidentielle de 2012, François Hollande avait promis d'indemniser les victimes des essais. Plus de 900 dossiers ont été déposés. La plupart ont été rejetés, car en raison de l'article 4 de la loi de 2010, qui introduit la notion de risque négligeable, les victimes doivent apporter la preuve que leur cancer est bien dû aux essais, ce qui est scientifiquement impossible.
Nous avons pensé à un moment que avec la gauche, aujourd'hui, les choses auraient changé. Mais malheureusement, l'histoire est là pour nous rappeler que le Parti Socialiste, sous le règne de Mitterrand, a quand même fait plus d'essais que la droite. L'arrivée au pouvoir de François Hollande, avec les grandes promesses qu'il a faites en disant que moi, président, il n'a rien fait de cela. Il y a du plutonium à Mururoa, ça on le sait, mais il y a du plutonium à Hau, sous à peine 10 cm dans le sol. Ça, je trouve que c'est vraiment scandaleux de faire comme si tout était normal.
Pour des centaines d'années encore, les îles et les lagons du Pacifique, les poissons et les oiseaux des atolls seront contaminés par la radioactivité. Pour autant, la société polynésienne souhaite aller de l'avant et inventer un nouveau chemin vers le développement, si possible en évitant de croiser de trop près celui de la France. Tahiti, une société à la dérive, un grand reportage de Jean-Arnaud Desreins et Laurent Gélin, réalisation Eva Moschinski.
Bonjour Laurent Gélin.
Bonjour Charlotte.
Donc pour la première fois de son mandat, le président François Hollande se déplace en Polynésie française. On imagine que les Polynésiens auront beaucoup de choses à lui demander.
Oui, en effet, tous les officiels du gouvernement polynésien que nous avons rencontrés affirment la même chose. Il faut que la France tienne ses promesses et qu'elle entreprenne une vraie décontamination des atolls et des îles où ont été effectués les 193 essais nucléaires français entre 1966 et 1996. Durant des décennies, les autorités de Paris l'ont répété en boucle, les tirs étaient propres et ne présentaient aucun danger pour la santé, mais depuis, beaucoup de cancers ont été observés chez les locaux et chez les militaires qui travaillaient sur les bases du Centre d'expérimentation du Pacifique, le CEP. De nombreuses associations demandent donc aujourd'hui que ces malades soient reconnus et qu'ils puissent toucher une indemnisation de l'État français. Paris accorde déjà chaque année environ 150 millions d'euros au titre du fonds de reconversion de l'économie polynésienne après l'arrêt de la manne financière que représentait le CEP. Beaucoup demandent désormais que la France s'attaque également au problème de la pollution.
Et est-ce que les Polynésiens sont majoritairement favorables à l'indépendance de leurs îles ?
C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Chez beaucoup de Polynésiens, il y a un désir certain de retrouver ses racines, sa culture mise à mal durant des décennies. La France a modernisé les îles du Pacifique, mais elle a aussi détruit le mode de vie traditionnel de ses populations, qui se basait sur la pêche et sur l'agriculture. Pour autant, une grande partie des Polynésiens doutent que l'indépendance soit la solution à tous leurs problèmes, d'une part parce que les subventions françaises s'arrêteraient, et d'autre part car personne ne voit quel homme politique local serait en mesure de gérer correctement le pays. Durant 30 ans, une longue lutte politique a opposé Gaston Flosse, l'ancien président de Polynésie, un ami proche de Jacques Chirac, trempé dans de multiples affaires de corruption, et Oscar Temaru, le leader indépendantiste, sans que la Polynésie ne parvienne à trouver un chemin de développement cohérent, ni qu'elle puisse s'affranchir de l'influence française. Pour la majorité des Polynésiens, l'essentiel, c'est de trouver un emploi et de se tenir aussi loin que possible de la politique.
Sur quel atout, alors, pourrait s'appuyer la Polynésie pour assurer son développement ?
La Polynésie dispose tout d'abord d'un espace maritime immense, grand comme l'Europe occidentale et qui abrite une biodiversité incroyable. La revitalisation d'une pêche raisonnée assurerait déjà certainement la santé économique des 275 000 habitants des archipels polynésiens. Le tourisme est également susceptible d'apporter une manne financière intéressante, mais s'il se développe à une échelle modérée, en respect avec les traditions locales. Isolée au milieu du Pacifique, la Polynésie n'a pas vocation à accueillir un tourisme de masse, mais la beauté de ses paysages convaincra sans difficulté les visiteurs fortunés. Enfin, pour limiter les importations, il est primordial que la Polynésie développe son agriculture. De fait, tous ces projets sont dans les cartons des gouvernements qui se succèdent en Polynésie. Reste que pour les appliquer, il faudrait rompre avec des logiques de dépendance qui enrichissent